Avec ce soir Ségolène Royal, ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Alain Duhamel. Une bonne nouvelle pour les places financières. La Bourse de Paris a terminé à la hausse aujourd'hui, ainsi que Francfort, Londres, Milan, après quelques jours de débâcle. Et le président de la République a évoqué la manière dont il fallait répondre à Donald Trump, là, il y a quelques instants.
La France, l'Europe n'ont jamais souhaité le chaos ou l'augmentation des tarifs. Nous pensons que c'est une mauvaise idée et une mauvaise réponse aux questions du déficit commercial. Si tarifs il y avait, et surtout ils sont à 20%, riposte il y aurait. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de protéger l'ensemble de nos secteurs économiques et tous nos compatriotes qui travaillent dans ces secteurs. Mais c'est d'arriver à une situation où le président Trump revienne sur sa décision.
Il faut que Donald Trump revienne sur sa décision, demande le président de la République. Mais là, on est dans un contexte de quoi, Alain Duhamel, de troisième guerre mondiale économique?
Bon, c'est ce que Donald Trump voudrait soit faire croire, soit plutôt faire craindre. Bon, dans ses gesticulations, dans sa façon de s'exprimer, dans ses provocations verbales, dans la grossièreté dont il fait preuve vis-à-vis de tous les partenaires possibles. Il y a un simulacre de guerre mondiale. Dans les mesures qu'il prend, il y a beaucoup de choses qui sont foncièrement, d'abord, très injustes, puisque ceux qui prennent le plus sont ceux qui en auraient besoin d'aide et non pas d'impôts supplémentaires. Donc, en fait, deux droits de douane qui se transformeront en, on connaît ça par cœur. Mais surtout, il s'en prend à toutes les catégories et à tous les interlocuteurs, à tous les pays, et avec un système de surenchère, de « à celui-ci, je lui donne 47%, ah ben non, ben celui-là, s'il exagère encore, on ira à 80% s'il le faut. Celui-là, il est gentil, hein, on ne le fera pas plus de 20%, d'abord comme s'il était le maître du monde. Ça a un côté le roi fou, hein, comme on a eu Charles VI, ou comme les Anglais ont eu Georges III. Et ça s'est très mal terminé pour les peuples dans les deux cas. » Et puis, heureusement, il y a quand même de la résistance face à ça. Il n'est pas seul au monde, contrairement à ce qu'il a l'air, non pas de croire, mais de feindre de croire. Et il a des résistances extérieures, on va sûrement en parler, et puis il a aussi des résistances intérieures qui s'expriment de plus en plus.
Même Elon Musk, son conseiller au commerce, Peter Navarro, qui serait à l'origine de tout ça.
Enfin, à l'origine. Qui serait
l'inspirateur.
Oui, enfin, qui serait le mauvais conseiller.
Voilà.
Parce que Trump lui-même, être brutal et être grossier, il n'avait pas besoin d'un conseiller.
Bah, je pense qu'en effet, il faut tout faire pour éviter la guerre commerciale, parce qu'il n'y aura que des perdants. Bon. Et ce que montre cette crise, c'est qu'il y a finalement deux façons de se comporter face à une crise déclenchée par une agressivité. C'est soit être sur le même terrain, c'est-à-dire être à notre tour agressif avec les mêmes armes, l'augmentation des droits de douane, comme on a entendu certains le dire, soit au contraire regarder ce qu'il y a comme opportunité dans cette crise. Parce que finalement, Donald Trump, il est agressif, mais il est transparent. Qu'est-ce qu'il dit Donald Trump? Et d'ailleurs, c'est un président de banque américain qui a eu cette phrase, qui a dit « Bon, l'Amérique first, c'est bien, à condition que ça ne se termine pas par l'Amérique seule. » Et là, vous avez vu que les bourses remontent parce qu'il a commencé à corriger le tir.
Aujourd'hui.
Et d'ailleurs, elles n'ont pas beaucoup descendu, les bourses, il faut bien le dire. C'est-à-dire, il y a eu aussi des discours catastrophiques.
C'est pas un crack, hein, ça c'est sûr.
Quand le CAC 40 recule de 11%, mais que de janvier à mars, les bourses, les actions boursières bancaires ont augmenté de 60% en 3 mois. Non, mais en France, je parle en France.
Oui,
où ça pose des problèmes d'ailleurs à l'économie sans que personne ne s'en occupe, on ne peut pas dire qu'il y a eu des difficultés. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir, à supposer même que Trump renonce à tout, est-ce qu'il faudrait revenir comme avant? Non. Je pense que l'opportunité de cette crise, c'est de se demander, premièrement, s'il n'y a pas une nouvelle occasion d'organiser autrement le commerce mondial par rapport à l'Europe. Par exemple, pourquoi ne pas nouer des accords commerciaux avec l'Amérique latine, avec le Canada, avec certains pays d'Asie? Et finalement, est-ce que la riposte la plus originale et la plus créative n'aurait-elle pas été de riposter à ces hausses de droits de douane par des baisses réciproques de droits de douane entre l'Europe et d'autres pays partenaires. Et donc de commencer à réorienter le commerce mondial.
Vers l'Europe. Alain.
Vers l'Europe.
Écoutez, si tout le monde était très raisonnable et très lucide, la situation serait certainement plus facile à gérer qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais je crois que à la fois, il faut surtout pas jouer la surenchère, les gros bois.
La Chine fait ça. Et... La Chine est rentrée dans la guerre commerciale.
Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que quand il y a des initiatives aussi provocatrices que celle de Trump, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas provocateur quand même. Quand il y a des initiatives de ce genre, il y a différentes façons de réagir, mais il y a évidemment le risque, et comme la Chine est quand même en train d'être le grand rival des États-Unis, il est évident que ce n'est pas du tout ni leur intérêt, ni la nature de leur régime, qui en plus ne doit pas compter avec l'opinion publique, ce qui est une grande différence avec d'autres pays, et ils prennent des mesures aussi folles. Ce n'est pas du tout vers ça qu'il faut se diriger. D'ailleurs, ce n'est pas ça vers ça que les Européens se dirigent, du tout. Pour l'instant, les Européens, je trouve que vis-à-vis des initiatives et des menaces de Trump, ils ont plutôt fait preuve de sagesse et de réserve.
Sagesse ou faiblesse ?
Alors ça, évidemment. Si on dit les Chinois ont raison et puisqu'on les menace de 60%, ils vont menacer de 60% et ils ont raison, là je vous suis.
Si, on verra à la fin de l'histoire.
Ce qui est, en tout cas mon cas pour l'instant, à tort ou à raison, je pense qu'il faut au contraire avoir du sang-froid, réfléchir et se demander comment on peut essayer d'organiser une désescalade si c'est possible. Pas sans tenir compte de nos intérêts, il n'y a pas à être idiot non plus, mais essayer d'avoir une gestion de sang-froid et de dialogue. Si on n'y arrive pas, il faudra passer par des mesures de rétorsion.
Pardon, mais moi j'ai souvent entendu la gauche s'en prendre à ce libre-échange, cette mondialisation sans protection, qui d'ailleurs entraînait en partie la désindustrialisation de l'Europe et de la France absolument. En particulier. Oui. Donc finalement, Trump... Il pose aussi des questions qui sont des bonnes questions, non ?
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, je pense, au-delà de la... Il faut être non seulement sage, mais il faut être très créatif. C'est un moment de créativité. En ce moment, au lieu d'être replié, d'être frileux, de dire « Attends, vous êtes méchant, ne faites pas ci », soyons créatifs et à l'offensive. Premièrement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nouer des partenariats commerciaux avec des pays autres que les États-Unis, puisque leur crainte, c'est l'isolement, premièrement.
Avec la
deuxièmement,
Chine aussi.
Pourquoi pas, avec certains pays d'Asie, à condition que ce soit réciproque. Deuxièmement, pourquoi ne pas poser aussi la question de quelle priorité industrielle et quelle autonomie industrielle et quelle autonomie agricole, parce que ça c'est très important, on n'en parle pas, mais c'est très important aussi dans les attaques qui sont faites contre notre agriculture, comment et quels sont les choix européens par rapport aux grandes filières industrielles et aux grandes filières agricoles. Et en particulier, comment est-ce que l'on révise le principe de libre concurrence au sein même de l'Europe qui nous a considérablement affaibli. Moi, je pense qu'il faut autoriser les industriels à faire des accords entre eux. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, à cause des règles européennes qui sont dépassées par les événements, faire des accords entre eux pour structurer des grandes filières industrielles à dimension mondiale, parce que ce sont ces grandes filières industrielles qui protégeront aussi les PME qu'elles ont dans leur écosystème. Et enfin, il y a une vraie question sur les GAFAM. On dit les GAFAM ne payent pas d'impôts, etc.
Mais Google, Apple, Facebook...
Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont en Irlande, qui est un paradis fiscal. Il faut poser cette question, il faut poser ce débat-là. Pourquoi est-ce que les sièges des entreprises américaines sont dans un pays d'Europe qui est un paradis fiscal et donc qui prive les autres pays européens ?
Donc Apple doit payer les droits de douane.
Mais pas seulement, il doit payer des impôts. Vous voyez ? Mais comme ils sont dans un paradis fiscal européen, prive... C'est un pays européen qui prive les autres pays européens de ressources fiscales.
D'accord avec ça.
Donc c'est un débat.
Alors, en ce qui concerne l'Irlande, je suis totalement d'accord.
Oui, mais on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas.
Ça fait longtemps qu'on dit ça.
Si on est dans une situation, tout le monde reconnaît qu'elle est même complètement nouvelle. Donc il ne faut pas dire on n'y arrive pas.
Mais ça fait longtemps qu'on pointe du doigt l'Irlande en disant c'est un paradis fiscal au sein de l'Europe.
Bien entendu, mais est-ce qu'on est, oui ou non, dans une situation nouvelle ? Et est-ce que dans ces conditions-là, on peut imaginer de faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer de faire avant ?
Voilà.
Bah oui. Bon, et que l'Irlande, au sein de l'Europe, je dis ça, j'adore l'Irlande par ailleurs, mais enfin bon, que l'Irlande, au sein de l'Europe, ait une situation fiscale totalement anormal et au détriment de tous les autres, et au bénéfice des États-Unis, c'est-à-dire contre l'Europe, en termes de rivalité industrielle et financière. Bon, effectivement, c'est totalement inadmissible. Que, là je suis d'accord avec Ségolène Royal, qu'à l'occasion du chaos organisé par Trump, en Europe, on essaie de monter des systèmes qui, pour l'instant, n'existent pas, et que sous l'effet du choc, de la peur, de tout ce qu'on peut imaginer, on prenne des initiatives qu'on croyait irréalistes il y a 3 mois, ben pourquoi pas ? Je ne suis pas contre, à ce moment-là, expérimenter effectivement des types de filières industrielles. Bon, il faut se mettre d'accord parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, mais dans une situation nouvelle, c'est le moment d'essayer d'expérimenter. Bon, cela posé, il faut savoir que tout ça sera extraordinairement difficile.
Et long.
Et long, bien sûr.
Pas forcément.
Entre la Chine et les États-Unis, c'est le début d'une confrontation qui va prendre de l'ampleur.
Elle peut être guerrière. C'est-à-dire que là, on parle de confrontation économique et commerciale. Mm-hmm. Est-ce que cette confrontation peut être militaire au bout d'un moment ?
Écoutez, quand les choses
tournent entre les deux plus grandes puissances,
les choses tournent très 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 mal au bout d'un moment, la question se pose. Pour l'instant,
je pense à Taïwan.
Pour l'instant, ah ben ça qui est des effets secondaires locaux. Très dangereux pour des pays qui sont beaucoup plus faibles que leurs interlocuteurs. Ça, je ne vous dirais pas le contraire. Mais on n'est pas au bord de la Troisième Guerre mondiale militaire.
Non, pas du tout.
Là, il ne faut pas raconter des histoires. On n'est pas au bord de ça. Mais en revanche, on est au bord d'une situation économique difficile qu'on n'a pas connue sous cette forme-là, avec en face de nous quand même Trump, qui aura réussi, il faut lui reconnaître ça, le premier trimestre d'exercice d'un mandat présidentiel américain le plus volcanique de l'histoire.
Oui, mais enfin, en même temps, il avait annoncé.
Ce n'est pas une raison.
Oui, mais il ne faut pas qu'on soit surpris non plus.
La question n'est pas du tout d'être surpris ou pas surpris. La question est de savoir si on en paie les conséquences face au risque qui existe, de savoir si on est capable de trouver la bonne réponse.
Alain n'a pas tort, c'est qu'on a toujours l'impression...
Mais Alain n'a jamais tort.
Non, mais les deux, Alain d'ailleurs, ont toujours raison, mais Ségolène aussi, mais on fait un peu les surprises. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la défensive.
Parce que
Trump, je suis désolé, l'avait annoncé pendant sa campagne. C'est son mantra. D'ailleurs, en 2017, c'était le cas aussi. Et donc là, on est surpris, on est sur la défensive.
Il n'y a aucune raison d'être sur la défensive. Il n'y a aucune raison.
Je croyais que gouverner, c'était prévoir. Donc on avait un président, normalement.
Non, mais on l'avait.
Et des Européens
pouvaient l'anticiper, ça.
Puisque Trump l'avait annoncé. Donc la question, c'est quand on n'est pas plus fort à armes inégales, il faut être plus intelligent. Et la mission de l'Europe, c'est d'être plus intelligente, c'est-à-dire de redire aussi, est-ce que premièrement, il peut y avoir un autre ordre économique mondial, plus juste, plus équitable, qui s'occupe aussi du bien-être des peuples, de la prospérité des peuples, de la lutte contre les inégalités à l'échelle de la planète, qui sont toutes les sources des guerres et des migrations massives. Ça, c'est la mission de l'Europe. Et par rapport à cela, quel est le nouvel ordre mondial que l'on peut redéfinir ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort de la suggestion à l'égard des États-Unis d'Amérique, puisque eux-mêmes le souhaitent ?
Ils nous lâchent militairement, ils sont en train de nous lâcher économiquement.
Redéfinissons les choses, retournons-nous aussi vers le continent africain, vers le continent asiatique, les continents asiatiques. Mais c'est le continent du futur.
Est-ce que l'Asie regarde vers l'Europe ?
Mais regardez, c'est la Chine qui prend pied en Afrique.
De toute façon.
Mais bien sûr, des choses à construire.
De toute façon. Il ne s'agit pas d'être inerte en face de ce qui se passe, mais il faut aussi être réaliste. La bataille entre les États-Unis et la Chine, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il n'y a aucune chance qu'elle s'arrête.
Mais
encore faut-il que ça demeure sur un plan qui soit militairement pacifique, ce qui pour l'instant est tout à fait le cas. Mais surtout. Notre difficulté. Alors, espérons qu'on va être intelligent, espérons qu'on va être unis, espérons qu'on va être créatifs. Très bien. Mais enfin, le fait est que on a devant nous les États-Unis et la Chine qui ont tous les deux envie de nous croquer au même moment par des méthodes différentes.
Mais ça nous redonne une nouvelle liberté pour négocier avec les uns et avec les autres par rapport à nos priorités.
Se faire dévorer.
Je vais vous donner un exemple. Comment se fait-il qu'en Europe, il n'y ait même pas la production de panneaux solaires dont nous avons besoin. Comment se fait-il que l'Europe, qui était à l'avant-garde sur toute l'industrie automobile, n'ait pas été capable de mettre sur le marché, en unissant l'ensemble des constructeurs automobiles européens, pour mettre sur le marché une voiture électrique bon marché?
On a laissé faire les Chinois. On leur a donné les marchés.
Alors qu'on avait le potentiel.
Parce qu'on n'a peut-être pas fait les réformes nécessaires pour être compétitif.
Il ne faut pas tout le temps dire que
c'est simplement de l'imagination.
Pas tout le temps dire que c'est de la faute des Européens quand la Chine a mené une politique économique qui était
agressive.
On avait la voiture électrique avant eux.
Incroyable. Et que les États-Unis maintenant en font autant. C'est pas de la faute des Européens.
On a des atouts.
Non, mais c'est pas de la faute des Européens si ça se produit. C'est quand même 30% et les Chinois.
Merci, mais si, on avait la voiture électrique il y a 20 ans. Il n'y a aucune raison qu'on se fasse dépasser par la Chine. On avait la voiture électrique.
Si, on était parfait, ça serait très bien. Mais on a en face de nous un président américain qui, vis-à-vis de nous, est le plus agressif de l'histoire.
Mais
et en face de nous, c'est moi qui suis en train de parler, et en face de nous, on a les Chinois. Et les Chinois n'ont qu'une idée, c'est de nous dévorer, ce qu'ils font avec bon appétit.
Et à côté, il y a les BRICS, c'est 40% de la population. Donc on peut se rapprocher des BRICS aussi.
Est-ce que
un nouveau multilatéralisme, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Le multilatéralisme, c'est
le continent africain.
On va finir
tout seul avec nos musées.
Le continent africain, à cause d'une diplomatie déplorable, on est tout seul avec la Tour Eiffel.
Il nous restera les musées et la Tour Eiffel.
Et Ségolène Royal et
l'industrie verte.
Deux monuments.
Juste
et la
à côté.
Voiture électrique.